RFI, grand reportage.
Il m'a détruit. Avec lui, j'ai tout perdu. Je me suis perdue moi-même.
Chaque année en France, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences conjugales, violences physiques et psychologiques qui se sont accentuées à cause de la crise du Covid-19, 30% de signalements en plus lors du premier confinement. Depuis le début de l'année, selon les associations, 77 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. La réponse pénale s'est durcie ces dernières années concernant les auteurs de violences conjugales, mais seulement un fait de violence sur 5 est dénoncé par les victimes. Violence conjugale, sortir de l'enfer, c'est un grand reportage dans le nord de la France de Lise Verbeck.
Appel en cours, en communication.
Dans le quartier populaire de Oisem, à Lille, l'association Solfa vient en aide aux femmes victimes de violences.
Bonjour.
À l'accueil de jour, dans un salon coloré et lumineux, on vient se reposer, discuter autour d'un café, se préparer à manger. Ici, les femmes se sentent en sécurité.
Alors, cette demande d'insertion, elle va être valable pour 3 mois.
Ce matin-là, une travailleuse sociale reçoit une victime qui vient de quitter son compagnon violent. La priorité est de lui trouver un endroit où dormir le soir même en appelant le SAMU social. La mise à l'abri est essentielle, mais les places en hébergement d'urgence manquent dans la métropole lilloise. Les femmes se retrouvent à dormir une nuit par-ci par-là, dans un foyer, à l'hôtel ou chez des connaissances. Alors à l'association, elles peuvent trouver, en plus d'une écoute et d'une aide dans les démarches pour s'en sortir,
donc on a deux lits,
toutes les commodités dont elles ont besoin.
Et puis un petit lit bébé là-bas, pour des mamans. Moi l'autre jour j'avais une maman qui dormait à l'église avec son petit garçon. Et donc à l'église, c'est pas hyper confort parce que c'est par terre, hein, c'est sur des tapis en dépannage. Quoi. Ouais. On a ici, donc je vous disais, la machine à laver sèche-linge, la douche, vestiaire, la bagagerie pour des femmes qui, des fois, préparent un petit peu un départ. Elles savent pas trop comment ça va se dérouler, donc elles préparent des affaires, des papiers importants, etc. Elles savent qu'elles peuvent le poser ici en sécurité et que le jour où elles arrivent à partir ou quoi, elles savent qu'il y a une valise ici avec tous les papiers importants, un peu de linge et puis... J'avais une dame l'autre jour au niveau des papiers. C'était les papiers qu'elle voulait laisser en sécurité parce qu'elle savait que monsieur fouillait dans le sac quand elle rentrait, etc. Comme elle préparait une séparation et tout, ça l'a vraiment rassurée de savoir qu'elle pouvait laisser les papiers ici. J'ai vu le changement, c'était impressionnant. Donc le vestiaire et puis un petit bureau d'appoint.
Et c'est dans ce petit bureau que Lily a atterri il y a quelques mois. La quinquagénaire a poussé la porte de l'association une poignée d'heures après avoir porté plainte.
J'étais complètement perdue.
Elle ne savait pas où aller et n'était que l'ombre d'elle-même.
Je suis arrivée du vendredi, j'ai dormi jusqu'au dimanche. Tellement j'étais épuisée, je ne savais plus bouger, je ne savais plus manger, j'avais plus aucun repère. Il fallait que je pose pour pouvoir réfléchir.
Il y a quelques années, Lily, femme indépendante et joyeuse, qui a élevé seule ses deux filles, rencontre un homme dont elle tombe amoureuse.
Au début, il est merveilleux. Il vous fait tellement boire de paroles. Vous êtes merveilleuse, vous avez tout. Oui, vous croyez en lui. Vous vivez sur un nuage. Mais ce nuage, il est fragile.
Quand elle emménage chez lui, la violence commence.
Après, c'est des petits coups par-ci, des petits coups par-là. Elle prenait par les bras et puis secouait. Et puis, des bleus, des ci, des là. Oui, ça arrivait. Vous avez tellement peur. Quand je sais l'heure où il arrive, je serre les dents à tel point que je me les casse. Tellement j'ai peur, je ne vis plus. Je suis renfermée sur moi-même, je ne parle plus. Je n'ose même plus bouger du canapé. C'est une vie qui est très difficile. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer ce soir. Pour lui, j'étais un pantin. Il a pris mon cœur, ma tête, mon corps et qu'il a maltraité pendant des années. Il m'a détruit. Avec lui, j'ai tout perdu. Je me suis perdue moi-même.
Pendant 6 ans, Lily vit un enfer. En avril dernier, la violence qu'elle subit franchit un nouveau seuil.
Il me menaçait toujours de se suicider. Donc il m'envoyait photos avec la corde. C'était un moyen de pression. Et je lui avais envoyé une photo, mais j'ai dit « je vais faire la même chose que toi ». Donc il est arrivé. Il était en train de travailler. Il est arrivé avec la voiture. Il a pris le couteau, puis il a commencé. « Tu vas savoir ce que c'est de souffrir ». Ça a été sa phrase. Après, j'ai été coupée.
Coupée à la main ?
Oui. Donc il m'a mis un scotch de chantier sur la blessure. Et puis il m'a dit « tu fermes ta gueule, Il m'a conduit à l'hôpital. Il gardait mon petit-fils en otage. Et moi, j'ai menti à l'hôpital en disant que je m'étais blessée moi-même. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est lui qui l'a fait. Et là, j'ai vu son vrai visage. Quand il y a eu ça, si je m'en vais pas, je vais sortir entre quatre planches.
Le lendemain, Lily porte plainte pour la première fois.
J'ai réussi. Le pas que j'ai fait, il a été tellement dur et difficile, parce que c'est pas facile d'aller déposer plainte. Vous êtes sur la route, vous tremblez. Vous arrivez près du commissariat, je vomis tellement j'en ai peur. Je regarde derrière s'il n'est pas là. J'ai peur. Mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée. Il fallait vraiment que ça se termine. Parce que j'en serais pas sortie autrement.
N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutue, ouais. Je te dis que je suis foutue. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me...
Porter plainte, pour les femmes, c'est une démarche extrêmement difficile. À la peur des représailles s'ajoute la peur de ne pas être entendue, crue, voire jugée par les policiers.
Oui, je vais vous ouvrir, je vais voir ça.
D'accord, merci. Au commissariat d'Amiens, une unité est spécialisée dans les affaires de violence conjugale.
Bonjour madame.
Bonjour.
Une fois qu'une plainte a été déposée, les femmes sont reçues ici, au sein du groupe de protection de la famille, où travaillent 5 enquêteurs spécialement formés à l'écoute des victimes.
C'est pour ça que je voulais vous voir, c'est parce que moi je l'ai eu et je lui ai rappelé ce qu'il en courait. Le harcèlement, il est clairement caractérisé. J'ai l'impression que son but, c'est de vous détruire.
Cet après-midi-là, Ali Lajneff auditionne cette femme, séparée de son mari, qui la menace et la harcèle.
On a l'ordonnance de non-conciliation, vous lui avez laissé la jouissance de la maison alors que c'était vous qui l'aviez.
Je vous l'ai expliqué, j'ai fui la violence.
Oui, vous avez fui la violence.
J'ai protégé mes enfants, c'est tout. Vous imaginez si jamais une fois j'ai un ami qui sort de chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Un drame?
J'espère pas.
Mais en tout cas, j'aurais prévenu depuis longtemps.
Mais, ouais. Là, je vais vous réentendre. On va reparler de tout ce qui s'est passé depuis que je l'ai entendu. Mmh. Allez.
Quand vous auditionnez une victime, quelles sont les difficultés?
Moi, ce que j'aime faire, enfin, la difficulté, je vais vous dire d'abord ce que j'aime faire, c'est les mettre à l'aise. Essayer d'un peu occulter le côté commissariat, police. On a un gros avantage d'être en civil. Donc, pareil, ça retire une barrière. Et montrer l'humain. Et à partir de là, il y a une confiance qui s'installe. Les difficultés, c'est rentrer dans le profond de l'intimité des gens. Parce que les gens ont beaucoup de mal, et c'est naturel. On n'a pas envie de parler de ce qui nous fait mal. On a envie de parler de ce qui ne va forcément pas. Donc on a tendance peut-être à minimiser. Et puis, c'est essayer justement de les faire lâcher. À partir de là, on a gagné, quoi.
Chaque enquêteur traite entre 70 et 90 dossiers. Sur le bureau de Thibaut de Villepoix, la pile ne cesse de grandir.
Tout est urgent, donc on essaye de faire ce qui nous semble plus urgent. On espère pas passer à côté d'un encore plus urgent. Il serait sous la pile ou quoi que ce soit. C'est toujours délicat. C'est une responsabilité qu'on préférerait ne pas avoir. Il faudrait qu'on soit, ça on peut le dire, il faudrait qu'on soit au moins 3 ou 4 de plus ici. Et on fait au mieux avec ce qu'on peut, avec le plus urgent. Mais bon, comment vous voulez qualifier de plus urgent des violences sur un enfant de 3 ans et sa mère? Ça, c'est un viol, là c'est des menaces de mort, est-ce qu'il va passer à l'acte ou pas? On sait pas. Qu'est-ce qui est le plus urgent? On s'adapte, on avance et puis on prend un... J'allais dire un dossier après l'autre, mais non, hein, moi, j'en traite 5 ou 6 en même temps. J'avais fait un rapide calcul, je crois que sans qu'on me donne de nouveaux dossiers, j'en ai pour entre un an et demi à tout traiter.
C'est
ce que j'ai actuellement.
Flo, il se déplace sur une dame qui serait séquestrée par son ex.
Le plus compliqué, c'est d'avoir l'adhérence de notre victime du début à la fin de la procédure.
Nathalie est enquêtrice dans l'unité depuis 3 ans.
Souvent, elles viennent parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui leur a fait prendre conscience que ce n'était pas possible, qu'il fallait que ça s'arrête. Et puis, parfois, entre deux, entre le moment où elles déposent plainte et le moment où nous, on les revoit, l'auteur des faits est revenu à la charge. Il est venu s'excuser, il est venu présenter des fleurs, lui dire qu'il ne recommencera pas, etc. Et donc, il y a un revirement de situation. Et nous, donc, Sans l'adhérence de notre victime, c'est très compliqué de faire tenir une procédure jusqu'au bout.
L'emprise affective, financière, qu'exercent les auteurs de violences conjugales est telle que les victimes se retrouvent piégées.
Allez-y, rentrez.
Merci. En 2005, Sarah, cette Marocaine d'une quarantaine d'années, rencontre un Français chez elle à Marrakech. Il se marie, il reconnaît sa fille, née d'une précédente union, et Sarah emménage avec lui en France.
C'est là où j'ai commencé. Elle ne m'a jamais dit ça. Il m'a dit ça, c'était un peu choc pour moi.
Il vous a dit quoi?
Ben, sale pute. Sale pute.
Ça a été le premier mot fort oui. Qu'il vous a dit.
Ah oui, oui, c'était pour moi. J'ai reconnu plus mon ex-mari. C'était des mots. Je comprends plus rien. J'y comprends plus rien. La personne j'aime plus, il m'a sauté comme ça. C'est commencé comme ça.
Après les insultes, les coups, dont l'intensité augmente jour après jour. Sarah tombe alors enceinte de jumeaux.
J'étais contente ou pas contente? Oui, j'ai peur déjà. Parce qu'à chaque fois, sur le soir, il rentre comme ça pour elle. J'étais enceinte de 4 mois. Il est rentré tard. Il a fait un insulte comme d'habitude. T'as une pute, tout ça. Il n'y a rien à manger, te fais bouffer de la merde. J'ai parti en courant, je vais monter à l'escalier, m'attraper par mes jambes, j'ai tombé. Il a fait prendre des carabines, et des chasseurs plus, il fait ça, la chasse aussi. La carabine est dans mon ventre. Là, je l'ai tombé, j'ai fait le sang, ça colle. J'ai crié fort, j'ai fait un fausse couche, j'ai perdu mon fils.
Mais vous avez perdu un bébé sur les deux,
oui.
À cause de lui.
À cause de lui, comme il a tué hein, son enfant, mais c'est mon fils aussi. Après, je reste quand même avec lui parce que j'attends mes enfants, ça grandit, il va comprendre, il va se calmer, il va ci, il va ça.
Vous avez toujours eu espoir, oui, qu'il se toujours, calme, que ça toujours, aille mieux.
Oui, j'ai toujours eu l'espoir.
Durant 14 ans, Sarah vit recluse dans l'appartement. Son ex-mari l'isole, elle n'a pas d'amis, sa famille est loin. Régulièrement, elle se retrouve au commissariat quand les voisins préviennent la police en entendant ses appels à l'aide.
Vous avez porté plainte combien de fois?
Oh là là, je ne sais pas, c'était pas loin. 10 fois.
Vous retirez à chaque fois les plaintes?
À chaque fois, oui. Je tirais ma plainte à chaque fois. J'étais pardonnée toujours, parce qu'elle est capable de tout. Je savais que ce n'était pas normal, mais moi, j'ai dit, je ne veux pas séparer de ma fille, mon fils pour son père, je ne veux pas. Toujours, je pense l'avenir, plus tard. Je dis, je vais rester, on verra. Je ne vais pas faire ça parce que je pense toujours, il m'a reconnu ma fille. Toujours dans ma tête, il a fait beaucoup de choses, ma fille. C'est ça aussi, je ne veux pas, comme une trahison, malgré tout ça, oui.
Son ex-mari accepte finalement de divorcer, à condition que Sarah retire sa dernière plainte. Il ne sera jamais inquiété par la justice. Aujourd'hui, Sarah se bat pour avoir la garde de son fils. Nommer la violence et accepter le statut de victime. Anne Le Mouton est psychologue au sein de la cellule de protection de la famille au commissariat d'Amiens. Elle reçoit les victimes avant ou après leurs auditions par les enquêteurs.
Sur des phénomènes d'emprise, et c'est quand même de l'emprise qu'on voit de plus en plus souvent, le travail thérapeutique il va être plus compliqué parce que la personne elle a adopté des stratégies d'adaptation qui vont lui permettre de rendre supportable ce qui est insupportable, de rendre relativement vivable ce qui est invivable, et elle aura ces repères-là. Et vous allez vous présenter en disant « Attendez, madame, ce que vous vivez, c'est pas normal. C'est de la violence, il faut protéger vos enfants, il faut vous protéger. C'est traumatique, ce qu'on vient en train de faire. On vient heurter tout ce qu'elle avait mis en place, cette dame, pour survivre à sa situation. Donc si vous ne lui offrez pas la possibilité de lui tendre la main en disant « Écoutez, madame, autre chose est possible. » C'est pas de l'amour, déjà. Autre chose est possible. Et que vous arrivez donc vraiment à la décentrer pour qu'elle ait un regard objectif, là vous y arrivez. Là vous savez que quand elle vous dit oui, c'est vrai. Vous savez que là, vous avez fait le plus gros du travail.
Mais ce travail est long, d'où l'importance du suivi de la victime de l'enquête jusqu'à l'audience devant la justice. En juin dernier, face à l'augmentation des féminicides et des violences faites aux femmes, plusieurs procureurs dans toute la France ont réclamé davantage de moyens, en exigeant notamment que chaque parquet soit doté d'un assistant spécialisé ou d'un juriste consacré spécifiquement aux violences conjugales.
Un seul fait de violence sur 5 est dénoncé aux autorités.
Alexandre de Beauchère, le procureur de la République d'Amiens.
Le chiffre noir diminue, mais il diminue lentement et surtout, les violences dénoncées restent très largement minoritaires. Donc ça signifie qu'on a encore devant nous, pendant des années et des années, probablement plusieurs générations, une augmentation en perspective des plaintes pour violences conjugales. Il faudra vraiment être capable de prendre en compte ce volume qui ne va faire que croître. Ici, sur le ressort de la Somme, c'est plus de 1000 plaintes par an, donc plus de 1000 enquêtes fouillées, détaillées, qui doivent être réalisées. Et puis, comme on développe énormément, y compris pour les premières infractions, des placements sous contrôle judiciaire avec des interdictions de contact, interdiction de paraître, on a aussi tout un nouveau contentieux qui s'est développé de non-respect de ces interdictions et qui s'ajoute encore au travail des enquêteurs à qui on a demandé une extrême réactivité. Confronté à une procédure pénale qui ne cesse de se complexifier année après année, on a un vrai défi pour réussir à avoir des délais contraints. Et c'est vrai que si on avait davantage de ressources humaines, que ce soit au niveau des services d'enquête ou à notre niveau, on aurait plus de chances de ne pas passer à côté d'une situation sensible ou dangereuse.
Ce manque de moyens, Émilie le ressent.
Bonjour. Merci.
Lorsqu'elle nous reçoit chez elle, dans une maison pavillonnaire d'un village des Hauts-de-France, elle attend depuis plus de 2 mois une réponse du procureur. Il y a quelques années, elle a subi un premier harcèlement de la part de son ancien compagnon.
J'ai tout gardé, mais tout un petit peu en vrac.
Ça a commencé en 2013.
Oui, en plus, il a crevé les pneus de mes 2 frères à l'époque, parce qu'il pensait que c'était mes amants. C'est tous les dépôts de plainte, tout ça.
Et depuis quelques mois, Émilie vit de nouveau dans la peur.
Pareil, un voisin malheureusement, où j'ai commencé une relation, ça a duré 9 mois avec des hauts, des bas, des ruptures puisque la relation ne me convenait pas. Voilà, comme à chaque fois ce monsieur me disait qu'il allait changer, arrêter sa jalousie puisque c'est une personne extrêmement jalouse.
C'était une relation toxique avec des violences psychologiques.
Il essayait de me rabaisser pour essayer de prendre le dessus sur moi. À un moment donné, il y a eu un mois de battement où je l'ai laissé faire ce qu'il voulait parce que je voulais être tranquille. Si je n'avais pas eu cette force à me dire au bout d'un mois, mais non, stop, c'est bon, ça ne me plaît pas, je ne veux pas de ça. Et si on n'a pas cette force-là, mais en fait, on reste victime, j'en sais rien, comment expliquer. Ouais, c'est ça, sous emprise. Et c'est vrai que je me suis donc du coup rebiffée, j'ai rompu. Et donc du coup, maintenant, ça fait 6 mois que c'est terrible pour moi à nouveau. C'est du harcèlement, c'est continuellement, j'étais obligée de le couper de mes réseaux, de le bloquer au niveau de mon téléphone parce que c'était message sur message, ça n'arrêtait pas. Psychologiquement, c'est très très dur à gérer. Dès que je le croise, bien entendu, j'ai la peur au ventre.
En avril dernier, il tambourine en pleine nuit à sa porte. Il l'insulte, il dégrade le local poubelle en bas de chez elle. Mais cette fois-ci, elle n'est pas allée porter plainte.
Malheureusement, à la gendarmerie, on n'est pas forcément... On se sent jugé, on n'est pas soutenu.
Qu'est-ce qu'on vous a dit à la gendarmerie?
Grosso modo, on m'a fait comprendre que c'était de mon fait, que j'étais trop ravissante. Enfin, et on m'a demandé ce que je faisais aux hommes pour qu'ils soient accros à moi. Que ça devait être mon parfum qui faisait que ça leur faisait tourner la tête. Donc aujourd'hui, c'est vrai que porter plainte à la gendarmerie, ça devient quasiment inconcevable.
Sur conseil d'une association, Émilie a donc écrit une lettre directement au procureur.
J'ai l'impression que c'est pas assez encore pour qu'il y ait des poursuites envers ce monsieur. Et apparemment, il faut plus de violence pour être entendu. Alors effectivement, jusqu'à quelle limite ? Donc, en fait, moi, ma démarche, c'est vraiment d'essayer que les choses changent en France, que les victimes soient entendues, que le harcèlement moral est aussi quelque chose de très impactant et que les coups, c'est fort, mais le moral, les mots sont tout autant et je pense qu'ils détruisent, je dirais pas plus, mais vraiment autant, ouais, largement autant. You only call me
when you need something. Violence conjugale, sortir de l'enfer, un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Pierre Chaffangeon. I don't like leeches. Oh.
All that nonsense gonna get back with ya. Don't got time for snitches. You're pulling me down, but you was my sister.